Xavier Delaporte, vous avez la parole.
Samedi, j'ai pas fait de lancement, c'est vrai, je suis désolé. Samedi, à l'occasion de la nuit des débats, Mediapart organisait une série de discussions à l'église Saint-Eustache. Alors l'une d'elles m'a particulièrement frappé, elle réunissait Dominique Schnapper, la sociologue bien connue et penseuse de la démocratie et de ses crises, et Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques et penseur du renouvellement, lui, des pratiques démocratiques. À plusieurs reprises, quand il cherchait à caractériser les grands mouvements qui travaillaient aujourd'hui la démocratie contemporaine, Yves Saint-Omer a cité, parmi d'autres, Internet, mais sans préciser. Or, il me semble que l'actualité récente permet justement de préciser cela avec une évidence tout à fait frappante. Prenons d'abord les Panama Leaks. Les Panama Leaks, qui font trembler le monde depuis dimanche soir et dont on peut espérer qu'ils continueront à le faire trembler, n'auraient pas été possibles sans les technologies numériques. Parce qu'ils n'auraient pas été possibles pour une source de 30 mètres autant de données, 11,5 millions de fichiers. Je me permets ici une parenthèse à titre de comparaison, car en 1971, quand un groupe d'activistes américains prouve l'existence des programmes de surveillance menés par la police fédérale sur des groupes de dissidents, et bien pour cela, ils ont dû cambrioler un bureau du FBI dans la banlieue de Philadelphie et n'ont pu emporter que quelques dossiers, c'était un autre temps. Donc pourquoi encore les Panama Leaks ne sont-ils pas possibles sans la techno? Parce que, au dire des journalistes qui les ont travaillés, les plus intéressants de ces documents étaient précisément des mails, parce que sans Internet et les réseaux de communication sécurisés, il aurait été impossible à une centaine de rédaction d'échanger ces documents, de partager des informations et de se coordonner. Parce que sans des outils de fouille de base de données, il aurait été impossible de faire quoi que ce soit de cette masse gigantesque de documents. Et parce que si on veut vraiment comprendre ce qu'il y a dans ces documents, il est beaucoup plus intéressant d'aller consulter les applications qui ont été créées par ces journaux sur leur site que les articles papier qui ont bien du mal à rendre compte de l'immensité et la complexité des informations récoltées. C'est-à-dire que l'informatique devient ici une arme contre ceux qui l'utilisent pour se cacher. Elle vient dévoiler, percer les secrets, bref, commencer à faire exister ce qui est en passe de devenir une des exigences de la démocratie contemporaine, à savoir la transparence et celle des flux financiers en particulier. À cela, en regard de ça, le deuxième exemple, le mouvement de la Nuit Debout qui s'est installé depuis une semaine place de la République à Paris, donc un mouvement très humain, très physique, comme vous l'avez raconté ce matin, et bien ce mouvement, il a beau être très humain, il est travaillé par les technos. Parce que c'est aussi sur les réseaux sociaux que les gens se coordonnent, ça c'est devenu un classique des mobilisations contemporaines, et il existe d'ailleurs un compte Twitter de la Nuit Debout qui relaie des informations, des demandes, des besoins, mais compte qui relaie aussi des analyses, type visualisation de données sur l'activité du compte Twitter et la manière dont se diffusent les informations. C'est-à-dire que Twitter offre la possibilité aux militants non seulement de diffuser des informations, mais d'avoir des outils permettant d'analyser la manière dont elles se diffusent, par qui elles passent, à quelle vitesse, dans quelle proportion, etc. Mais plus intéressant encore, il s'y passe grâce aux derniers outils technologie, ce qu'on avait vu apparaître avec les mouvements Occupy aux États-Unis en 2010. C'est-à-dire que les militants prennent en charge la médiatisation de leurs actions. Tout ça est symbolisé par le désormais fameux Rémi Buisine et son compte Periscope. Ça fait plusieurs nuits que ce jeune homme de 25 ans donc retransmet en direct via l'application Periscope ce qui se passe sur la place de la République avec un succès croissant. Chaque soir, des dizaines de milliers de personnes regardent ce compte et il est en effet passionnant d'aller regarder ce compte. De voir tous ces gens venir lui parler à Rémi Buisine pendant qu'il filme, ou alors lui écrire via le chat de Periscope pour l'encourager avec un discours commun qui est « continue à filmer, on n'en peut plus des médias qui réduisent, coupent, interprètent, toi tu montres et c'est ce qu'on veut ». Alors bien sûr, c'est une critique un peu simpliste parce que par bien des aspects Rémi Buisine se transforme en média par ce qu'il fait, mais un média qui est en accord avec le mouvement dont il rend compte, c'est-à-dire participatif, puisque sur Periscope tout internaute peut réagir en direct, poser des questions, etc. Un média qui fait fi des porte-paroles, puisque quand il filme pendant 5 heures de suite, il peut interroger des dizaines de participants sans souci de trouver le porte-parole ou la porte-parole. Un média non hiérarchisant dans les sujets abordés. Un média transparent dans ses processus. Et comme le micro de Rémi Buisine est ouvert pendant toute la diffusion, on entend toutes ses conversations, comme celle à un moment qu'il a eue la nuit d'avant-hier, avec une journaliste de TF1 qui voulait récupérer quelques images, ce qui a provoqué l'ire des internautes qui entendaient cette conversation. Avec des effets de miroir étonnants, quand par exemple, hier soir, une jeune fille au micro Place de la République se tourne vers la caméra de Rémi Buisine, enfin son téléphone portable plus exactement, et demande « Combien de personnes sont en train de regarder, nous regarder sur Periscope ?»« 40 000 !» répond Rémi Buisine. Tout le monde crie et applaudit, et là on se dit qu'en effet, Internet participe à sa manière à ce travail en profondeur de la démocratie contemporaine.